bienvenue dans cette nouvelle émission en presque direct du congrès ICEM Pédagogie Freinet. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle Thierry Meng et comme vous pouvez peut-être l'entendre, il y a un peu d'écho. Pour débuter cette émission du vendredi, nous allons découvrir des interviews réalisées jeudi et on laisse le micro à André.
Bonjour.
Bonjour André.
Vous allez être tout à l'heure responsable de l'animation Le marché des connaissances. Et pouvez-vous, pour nos éditeurs, préciser ce que c'est, dans une classe, un marché des connaissances?
Alors, un marché des connaissances, c'est un moment qui se déroule où tout un chacun, chaque élève, peut proposer quelque chose qu'il sait faire, quelque chose qu'il aime faire à ses camarades de classe, à l'enseignant y compris. Donc du coup, ça peut être un format très court, quelques minutes, ça peut aller à un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est un temps où on tourne, les enfants de la classe tournent sur différents stands et on peut proposer, alors ça va de « tiens, je te montre comment je fais un origami »,« tiens, moi, je bricole des choses avec du bois »,« tiens, je sais faire de la peinture une certaine technique ». Ça peut vraiment être tout un tas de techniques et tout un tas de petites choses qu'on sait faire. Et du coup, ça montre bien que l'enfant, au même titre que tout le monde dans la classe, peut proposer, peut apprendre à ses collègues, à ses camarades, des choses, des nouvelles choses à faire. Alors du coup, ça, en fait, quand on fait ça en classe, alors ça peut être de façon hebdomadaire, si on n'y arrive pas, ça peut être même de façon mensuelle pour commencer. Hein, c'est, de toute façon, le but, c'est de se lancer. Alors, voilà. Et donc, ça, on invite les enfants à, par exemple, réfléchir à combien de personnes ils vont, à combien de personnes s'adresse leur petite présentation. Donc, ça demande de réfléchir en amont, par exemple, au matériel dont ils ont besoin, au temps dont ils ont besoin, dans quel espace de la classe est-ce qu'ils peuvent proposer ça pour que ce soit le plus judicieux possible. Et c'est vrai que c'est très complet, parce qu'à la fois, il y a toute la préparation en amont, de réflexion, d'anticipation, de préparation, et puis la phase propre à proprement parler du marché de connaissances, où l'enfant, du coup, travaille sur sa prise de parole, du coup, sa confiance en lui-même, parce qu'il doit prendre la parole devant ses camarades. Parfois, il y a même l'enseignant qui participe avec bonheur aux différents stands qui sont proposés. Donc, du coup, pour la confiance, pour l'estime en soi de l'enfant, c'est fondamental.
Oui, mais pratiquement, dans votre classe, par exemple, comment vous mettez en place vraiment pratiquement, c'est-à-dire à quel moment dans l'organisation dans votre classe vous allez introduire cette technique et cette valorisation de l'enfant?
Eh bien, par exemple, dans ma classe, c'est tous les jeudis après-midi. Donc, il y a une fiche sur lesquelles, qui est affichée sur un mur de la classe où les enfants peuvent s'inscrire au marché de connaissances. Donc, ils mettent leur nom, leur prénom, l'intitulé, en fait, de ce qu'ils veulent proposer, une courte phrase de présentation. Si, parfois, pour les plus jeunes classes, ce sont des enfants qui ne sont pas encore scripteurs, on peut tout à fait demander à un enfant plus âgé d'écrire pour nous ou demander à l'enseignant. Donc, une petite phrase de description, le nombre de personnes à qui c'est destiné, et puis après on peut faire par exemple plusieurs pôles dans la classe, on peut faire trois stands simultanément dans la classe et les enfants tournent de stand en stand pendant tout le temps du marché de connaissances. Il y a des stands qui sont plus appropriés dehors, si c'est parfois des choses un peu plus physiques, une technique de lancer, une technique de par exemple au foot, on a déjà eu des enfants qui montrent une technique de dribble, donc ça peut être tout à fait dans la cour de l'école ou bien dans la classe, et l'intérêt c'est que les enfants puissent tourner de stand en stand, puisque c'est des temps de présentation relativement courts.
Alors si je comprends bien, c'est un peu des ateliers qui sont installés dans la classe, comme dans une classe maternelle par exemple, où l'enfant est le responsable de cet atelier et il devient le transmetteur de savoir.
C'est exactement ça. Alors il faut savoir que pendant le marché de connaissances, il n'y a aucune intervention de l'adulte. L'enfant est maître, il est responsable de son atelier. Alors bien sûr, il y a eu de la préparation en amont où on peut accompagner les enfants dans leur réflexion quant au nombre de personnes maximum auxquelles on peut proposer l'atelier. On peut guider l'enfant, on peut l'accompagner vers la conception de son atelier. Mais une fois que le marché de connaissances a lieu, en fait, les enfants sont vraiment responsables, autonomes dans la gestion de cette... De de cet atelier, de leur atelier.
Oui, bien sûr, ils apportent leur matériel, ils sont responsables de l'ensemble de la mise en place, quoi. Et puis vous, vous êtes donc le pourvoyeur. Et la personne vigilante qui empêcherait une catastrophe.
C'est ça. On est simple. On reste garant du temps, effectivement, parce que des fois, et c'est tellement, les enfants se passionnent pour ce moment de la semaine. C'est un temps fort de la semaine. Donc du coup, on est garant simplement, de dire, bien écoutez, ça fait une heure ou ça fait une heure et demie. Donc pensez à bientôt terminer votre atelier, puisque du coup, on est simplement nous, simplement là, plutôt en observateur, en garant de la sécurité, en garant du calme et du temps. Mais on est vraiment en retrait par rapport aux enfants.
Bien, merci beaucoup, et bonne continuation.
Émission spéciale, 55e congrès ICEM, pédagogie Freinet sur les ondes de Radio Primitive.
Un congrès pédagogique de l'ICEM pédagogie Freinet, c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles associations, des gens engagés, militants, et aujourd'hui on va rencontrer Florian de chez Josette. Alors, on va laisser Florian se présenter, puis après on lui posera 2-3 questions sur chez Josette, son histoire, les buts poursuivis, etc. Florian, je te laisse te présenter.
Bonjour, et bien je m'appelle Florian, donc je suis bénévole au café librairie chez Josette à Charleville-Mézières, et accessoirement je suis également professeur de SVT en collège, dans les Ardennes.
Donc engagé dans l'éducation, engagé au niveau militant dans chez Josette. Alors l'aventure de chez Josette, ça a démarré quand et comment ?
Alors chez Josette, ça a commencé il y a environ 2 ans, autour d'un collectif d'une dizaine de personnes qui étaient engagées dans différentes luttes politiques, du coup dans les Ardennes. Et on s'est rendu compte du manque de structures, de lieux d'accueil, de lieux de rassemblement pour discuter, pour échanger. Et du coup, on a décidé de se réunir et de créer chez Josette, qui est un café-librairie, du coup, qui nous permet de nous retrouver très régulièrement et d'accueillir également des intervenants politiques.
Le café, il est donc à Charleville-Mézières. Peut-être que tu vas pouvoir nous donner un peu l'adresse. Il y a des horaires d'ouverture précises. Vous ouvrez un peu à la demande. C'est en fonction des emplois du temps des uns, des unes, des autres.
Alors effectivement, donc on est comme on est tous bénévoles dans le café librairie, on a du coup décidé d'avoir des horaires un peu particuliers, et généralement on essaye d'ouvrir du mercredi au dimanche, de 14h jusqu'à 20h généralement, mais selon la présence d'invités, d'événements, on va poursuivre le soir un peu plus tard jusqu'à 23h minuit à peu près, donc le café librairie, il est situé donc à Charleville-Mézières dans le centre-ville, rue de l'Arquebuse. Donc on est vraiment plein centre-ville, à côté de la rue piétonne, très facilement accessible.
Donc j'espère que les auditeurs et les auditrices seront notés les coordonnées, surtout ceux et celles de cette région. Café, donc on voit un peu ce que ça peut être l'activité, librairie aussi, mais tu as glissé les événements, donc tu peux nous dire quel type d'événements vous faites, rencontres, fêtes, soutien militant d'associations.
Alors, le gros de nos événements sont la présence et la discussion autour de livres écrits par nos invités. Donc, je peux citer entre autres, on a reçu Laurence de Coq, Nathalie Quintane, Wilfried Lupano, certains assez connus, d'autres peut-être un peu moins. Ça, c'est le gros de nos activités. Il nous arrive également d'avoir des petits concerts en acoustique. On aura notamment quelques-uns pendant le mois de septembre pour fêter l'anniversaire de chez Josette. On a également des projections de films ou de courts-métrages avec une association qui s'appelle La Pellicule Ensorcelée, qui est spécialisée dans les courts-métrages. On a eu également, qu'on peut le noter, une projection en soutien à la grève contre la réforme des retraites. Donc tous les profits qui ont été faits ce soir-là ont été reversés à la caisse des grévistes, notamment de la SNCF. Et puis on a essayé de mettre en place également des ateliers un peu plus pratiques autour de la couture, un peu des ateliers de soutien scolaire, mais qui n'ont pas réussi à bien prendre pour l'instant. Voilà pour l'essentiel des événements.
Du coup, vous avez aussi été impacté, comme beaucoup d'associations qui sont dans le social, on va dire, dans l'engagement politique, par la crise du Covid. Là, vous en êtes où ? Les activités ont repris, l'horizon se dégage un peu.
Alors effectivement, on a fait 2 ans qu'on est ouvert, mais sur ces 2 ans, on a dû être ouvert environ un an seulement, vu que de mars à juin 2020, on a été fermé. On a réouvert un petit peu courant juin, juillet, et ça a vivoté en fait jusque mai 2021. Ça a vivoté un petit peu, donc sans trop d'événements, sans trop d'activités. Les horaires d'ouverture étaient très restreintes. Et du coup là, par contre, au cours du mois de juin et juillet, depuis que tous les lieux ont bien pu être réouverts, on en a profité et on a repris une activité à peu près normale. À peu près normale parce qu'on a quand même perdu un petit peu de motivation pour certains d'entre nous, et on a des personnes qui se sont un peu perdues aussi entre temps. Mais là, on espère qu'avec la rentrée en septembre, on a déjà un programme qui commence à bien se présenter et qui va reprendre avec une activité à peu près normale, avec 2 événements par semaine environ.
Du coup, grosse implantation aussi dans le quartier où vous êtes, je suppose, qu'il y a un quartier, alors je sais pas, Charleville-Mézières, c'est un quartier populaire, vous avez pu vous... Non, je sais pas.
Ouais, on est vraiment le lieu où on est, c'est le centre-ville, donc pas forcément très populaire, c'est vraiment là où il y a tout le monde tout le monde passe, pas particulièrement un lieu populaire. Par contre, on a eu plusieurs événements qu'on a essayé de coupler en fait en 2 fois, en deux sessions, une session donc dans le lieu même du café librairie et une autre session avec une association amie qui s'appelle les locataires de la planète Terre, qui est située effectivement dans un quartier plus populaire de Charleville-Mézières qui s'appelle Étion. Et ce qui nous a permis justement d'aller à la rencontre d'un autre public que celui qu'on est habitué à avoir rencontré en centre-ville. On aimerait bien également essayer de sortir un peu de Charleville et de proposer également sous le même format des événements en double session, une session chez nous et puis une session en extérieur pour aller aussi dans les villages alentours. Notamment, personnellement, moi je travaille dans un village un peu excentré de Charleville, et c'est vrai que ce serait pas mal des fois d'aller aussi proposer des événements dans ces villages-là.
Alors j'ai vu sur ton stand le choix des éditeurs, qui sont des éditeurs qu'on connaît dans le mouvement Freiné, du style Libertalia, des auteurs qu'on connaît, bon, t'as cité Laurence Decoq par exemple. Donc vous êtes, on peut appeler ça, sur la pensée critique, etc., critique sociale. Est-ce que vous avez aussi... Alors, comment vous faites le choix de vos éditeurs? Et est-ce que vous avez aussi, par exemple, des choses en direction des enfants, des ados, ou alors on reste vraiment dans le domaine plus adulte?
Alors, donc pour le choix des éditeurs, on est parti, en fait, depuis 2 ans, à travailler directement avec les éditeurs. Donc, on fonctionne avec un système de dépôt, généralement, avec eux. Et on a choisi de travailler principalement avec les petits éditeurs ou avec des éditeurs indépendants. Donc chez Josette, il n'y a pas vraiment les grosses maisons d'édition, Gallimard et compagnon, Hachette, vous en trouverez pas spécialement. Pour ça qu'on retrouve par contre beaucoup Libertalia, Dagone, L'Échappée, et ainsi de suite. Donc déjà, notre sélection, elle se réduit un petit peu par rapport à ça. Pour autant, on essaye d'avoir quand même un stock de romans aussi, pas forcément que des essais, que de la pensée critique. On essaye également d'avoir un stock à destination de la jeunesse. On a vraiment l'envie de développer ce rayon-là, notamment parce qu'il y a plein d'éditions qui sont magnifiques à présenter, type Rue du Monde ou même Seuil Jeunesse, qui sont très intéressantes. On n'a pas encore réussi totalement à concrétiser ça, à se pencher vraiment dessus, mais ça devrait arriver dans les mois qui viennent, je dirais. Et je pourrais préciser également un autre élément, c'est que sur la librairie, on a également une partie livres d'occasion que des gens nous redéposent. et que nous on remet en vente mais à prix libre. Donc, ce qui permet de faire un système un peu d'échange, un système d'échange un peu solidaire, on donne ce qu'on veut et puis et on part avec le livre, ces livres d'occasion.
Du coup, chez Josette, c'est aussi un site internet, une communication par des moyens de ce style ou pas ?
La communication chez Josette, on a une liste de mails. En fait, chez Josette, c'est un lieu associatif. Donc, dès l'instant où on a envie de consommer quelque chose au bar, faut être adhérent à l'association, ce qui me permet de créer un listing pour communiquer directement avec les adhérents. On a une page Facebook. Mais on n'a pas de site internet par contre. Trop de contraintes, trop de manque de temps pour gérer ce site internet. En fait, on en avait créé un, mais on s'en est pas du tout occupé. Et pour ce qui est de la communication, on a un petit flyer en A3 qui est préparé tous les 2 ou 3 mois, qui présente tous les événements qui ont lieu chez Josette pendant cette période-là.
Donc, tu as parlé d'adhésion à l'association, donc tu... Le montant, les modalités, tout ça.
L'adhésion à l'association est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est une adhésion à prix libre pour une durée d'un an. Donc, cette adhésion vous permet, prix que vous avez, que vous pouvez mettre, soit en soutien à l'association ou juste pour adhérer comme ça, permet de consommer bière et café dans le lieu.
Eh bien, merci Florian, ça nous a permis de mieux connaître un peu chez Josette. Donc, rendez-vous pour les congressistes dans la salle des éditions pour consulter, venir échanger avec toi et pour les gens de la région, vraiment après essayer de venir à l'association. Bonne continuation, au revoir.
Merci et au revoir.
Nous allons à présent écouter des extraits du débat sur les répressions que subissent les enseignants en méthode Freinet.
Ouais, pour rebondir là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord avec le sabotage, mais pareil, ça dépend toujours, pour moi, des collectifs dans lesquels on s'inscrit. Et je me souviens ce que je voulais dire aussi pour répondre à Philippe sur l'histoire de... Tu disais qu'il ne faut pas être dans l'attaque. Et on nous colle souvent l'étiquette de on est trop virulent, on est trop violent en tant que militant, en tant que syndicaliste, en tant qu'ultra-gauchiste, je sais pas quoi. Bah, en fait, c'est nous qui nous en prenons plein la gueule, en fait. C'est nous qui sommes réprimés, c'est nous qui sommes attaqués. C'est la hiérarchie qui nous attaque, c'est pas nous qui les attaquons. Nous, on fait que se défendre. Nous, tous les outils là, qu'on présente et qu'on a essayé de mettre en place, voilà, ils ont fonctionné, ils n'ont pas fonctionné. Mais en fait, c'est de la résistance, c'est un combat collectif, mais en fait, c'est pour répondre à l'attaque qu'on subit. Enfin, je pense qu'il faut faire attention de ne pas renverser les choses. C'est nous les victimes, les réprimés, et on se défend contre l'attaque de la hiérarchie et du gouvernement. Voilà.
Bonsoir. Alors, il y a beaucoup de similitudes avec ce qui s'est passé pour Hélène cette année, sauf que nous, c'était l'année dernière en plein confinement. Donc, tout ce qui est communication, on a réussi à le faire. Enfin, les OS sont intervenus, une intersyndicale de 5 organisations qui ont co-signé un communiqué. On a eu des pétitions en ligne, le GD, les parents, le CA qui a écrit aussi à l'inspection. L'inspection a fait la même chose. Non, ce n'est pas une répression pédagogique. Nous n'avons rien contre la pédagogie freinée, puisque justement pour protéger votre école, pour qu'elle reste en pédagogie freinée. Donc à Hérouville, l'école est en pédagogie freinée depuis 40 ans, depuis plus de 40 ans. Avec un projet d'école pédagogie freinée, mais une école freinée dans le mouvement ordinaire. Donc pas de profilage, pas de commission, pas de sélection, arrivé au gré du mouvement des personnes intéressées par la pédagogie freinée, avec une co-formation, avec le GD et à l'interne de l'école. Et l'année dernière, donc, on a subi une enquête administrative à charge, avec une inspection individuelle dans chacune de nos classes. Et pendant je sais pas, un mois après peut-être, on a reçu une lettre nous indiquant qu'au fur et à mesure de la vacance des postes, au fur et à mesure que les titulaires changeraient d'école, les postes deviendraient profilés. Chose pour laquelle déjà on était en discussion au GD, on n'était pas du tout d'accord là-dessus. Et puis confinement. Et pendant le confinement, c'était le moment du mouvement. Et au moment du mouvement, on se rend compte qu'en fait, non, il n'y a pas que les postes vacants au fur et à mesure qui vont être profilés. On a toutes perdu notre poste. On était 12, on s'est retrouvés 12 sans poste. 12 titulaires sans poste, l'école rayée de la carte. On nous donne 20 points pour participer au mouvement et pour protéger cette école, pas cette équipe, parce que justement, on n'est toujours pas les conclusions de l'enquête. Hein, on est en plein confinement, pas de conclusion de l'enquête. Mais il fallait profiler l'école pour la protéger, la laisser en pédagogie freinée. Et donc on s'est vu dans l'obligation de participer au mouvement, puisqu'on était tous sans poste, mais l'école réouvrait sur 12 supports profilés, auxquels, si on avait envie de participer au profilage, de passer devant la commission, c'était tout à fait possible. Pareil, on avait tous des rapports d'inspection qui faisaient état de services tout à fait positifs. Et retour à l'école au mois de mai en présentiel, là on reçoit par visioconférence les conclusions de l'enquête administrative qui sont à charge, aucune faute professionnelle individuelle, des membres de l'équipe, manque de formation, ça manque d'exigence, les regards au vu des pratiques mises en place dans cette école, les résultats ne sont pas satisfaisants. On ne sait pas sur quoi ils sont appuyés, puisque bon, sur quel... C'était la seule année où on avait, pour une fois, couché les pouces et passé les évaluations nationales et fait remonter les résultats, qui étaient plutôt très bons pour la circonscription d'Hérouville, qui est un milieu assez défavorisé. Voilà. Et malgré tout ce collectif, malgré nos demandes insistantes pour rencontrer le DAZN, pour rencontrer le DAZN adjoint, ça a été refusé. La présence syndicale a été refusée pendant les entretiens individuels aussi. Donc on s'est juste vu... muté aussi, hein, quelque part, dans l'intérêt du service, puisque les postes étaient fermés. Voilà. Deux collègues de l'école ont demandé à participer au poste à profil. Sur les 12 qu'on était, deux ont participé à ces commissions, deux ont été acceptés. Et ils ont trouvé 10 autres personnes. Alors, de dire, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, il y a plein de volontaires, il y a plein de jeunes, il y a plein de personnes motivées. Ça a permis à l'équipe, le but du jeu, les conclusions de l'enquête étaient de briser cette équipe. Et voilà, avec une fiche de poste qui ne parle jamais de pédagogie freinée, qui parle toujours de pédagogie coopérative et de respect du projet de l'école. Mais jamais de pédagogie freinée, de pédagogie coopérative. Voilà. Nous, individuellement, quelques-unes, on a fait une démarche pour un accident de service. On a eu des journées d'arrêt de travail l'année dernière, donc commission de... On a eu le droit à la commission de réforme puisque l'inspection contester nos arrêts de travail comme des accidents de service. Donc on a eu le droit à des entretiens psychiatriques, une expertise psychiatrique individuelle pour bien faire, pour voir si nos arrêts de travail étaient justifiés par le travail et non pas par notre situation individuelle. Voilà. Donc on a gagné ça au bout d'un an, commission de réforme, visite, avec le soutien des syndicats. Mais effectivement, toutes ces actions collectives ont été nombreuses, hein, que ce soit parents, organisations syndicales, GD, ça n'a pas abouti non plus à une victoire collective.
Je disais que par rapport au rapport de force qu'on a fait dans notre école, c'est qu'en fait, je ne parle pas à mon nom, c'est pas madame Intel qui parle quand on prend des décisions, c'est le conseil des maîtres qui a décidé. Donc ça veut dire que l'inspectrice, si elle veut faire quoi que ce soit, veut dire qu'il faut qu'elle nous vire tous parce qu'elle n'a pas de nom. Donc du coup, pour faire les évaluations et tout ça, on ne les fait pas. Le conseil des maîtres a décidé qu'on ne faisait pas les évaluations. Donc du coup, soit elle est d'accord, pas d'accord, et en fait, elle ne peut pas réprimer juste ce qu'ils font en CP. Moi, je suis en CP, j'étais en CA il y a 2 ans, et en fait, elle n'a jamais pu nous coincer. Parce qu'il n'y a pas de nom, enfin, on fait tout ensemble. On n'est pas d'accord sur tout, tout le temps, mais ça, c'est entre nous. Face à l'institution, on n'aura laissé même pas un petit fil. Ils ne peuvent pas rentrer. Voilà. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai du mal un peu. Je me dis, mais enfin, si on n'est pas ensemble, si en fait, on ne peut pas se mettre ensemble pour combattre ce qui est en haut, et ben, en fait, on ne pourra jamais gagner parce qu'on est trop petit. Mais sauf que du coup, quand l'inspecteur vient chez nous, il sait très bien de quoi il parle, et puis on est super syndiqué, on connaît nos droits, on lui redonne les textes de loi. Quand on doit le voir, on est armé. Bah, armé, j'aime pas ce mot parce que c'est un peu. En fait, on sait exactement de quoi on parle. Moi, je n'aime pas l'amateurisme quand tu défends quelque chose d'important. Tu dois être d'équerre, tu dois être efficace, tu dois savoir de quoi tu parles. Voilà, enfin, donc, et du coup, je trouve que des fois, on donne le bâton pour se faire battre. Parce que si on se permet de dire on défend une pédagogie, on défend ceci, on défend cela, et qu'en fait, on n'est pas au clair sur ce qu'on a, sur ce qu'ils peuvent nous faire ou pas, sur ce qu'ils peuvent nous interdire ou pas, et bien en fait, on perd beaucoup de temps. Enfin, je suis désolée. Et donc voilà. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on soit efficace. Et pour ça, il faut savoir de quoi on parle vraiment.
Michel. Oui, merci. Il me semble que dans un combat contre le politique, contre le gouvernement, il y a 3 stratégies. Il y a le combat, celui-là, il se passe dans la rue. Manifestement, on a perdu d'avance parce qu'on n'est pas assez nombreux. Il y a la résistance qui consiste à dire « je ne le ferai pas ». Et il me semble qu'on n'est pas assez nombreux. Et puis il y en a un troisième qui a été utilisé au Mexique en particulier, c'est le sabotage. Et c'est quelque chose que j'ai utilisé moi quand les bas élèves sont arrivés en lycée, bien avant d'arriver chez vous, au premier degré. Les notes étaient imposées. Si vous avez 3 notes dans un trimestre, vous avez une belle courbe de Gauss, avec des gens qui ont des moyennes de 5 et d'autres qui ont une moyenne de 18. Si vous mettez 60 notes, ils ont tous la même note. Voilà, c'est un exemple qui n'est pas forcément transposable, mais le sabotage est une solution.
Faites place encore aux idées sans existence, même les laïcs récitent le décalogue, à défaut d'avoir le premier rôle, voilà la garantie d'en rester en première loge. Gracchus s'organise contre les troupes de Pemikin, Nestor insiste et conjure les échos sereinement, la révolte dévore ses enfants et restaure à l'infini les grands chaînes écrasants. We'll be right back.
écoutez toujours Radio Primitive. Nous sommes dans l'émission en presque direct du congrès ICEM Pédagogie Freinet.
Un congrès pédagogique, c'est aussi nourrir 400 congressistes. Alors aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'équipe qui assure la restauration de qualité sur le site du congrès. Donc on va laisser la présentation se faire et puis poser quelques questions au gré des réponses données dans la présentation. Alors je te laisse te présenter.
Oui, bonjour, Vincent Contal. Donc je suis agriculteur, meunier, biscuitier bio sans gluten dans les Ardennes. C'est une entreprise familiale, je suis en fait avec mon épouse et mes enfants. Et on a un salarié en plus pour compléter l'équipe parce que ça fait quand même beaucoup d'activités. On est en production principalement sur le sarrasin, la lentille verte pour les farines sans gluten. Et on a un deuxième moulin pour les farines de blé, de seigle et d'épeautre non hybridée bio.
Eh bien, ça fait énormément d'activités. Donc les journées, l'emploi du temps d'une journée de l'équipe, ça commence très tôt, ça finit très tard.
Tout à fait. Alors moi, mon activité, c'est de démarrer déjà le moulin qui va fonctionner toute la journée, soit en sans gluten, soit avec gluten, à 5 heures. Je mets en route. Ensuite, je me restaure et après, mon fils arrive pour prendre le relais en meunerie. Et après, je prends la participation de l'activité recherche de clientèle, puisque avant tout, on est des commerçants, puisqu'on transforme nos farines, qui sont écrasées sur meule de pierre, en biscuits, pour une bonne partie, et ça, on est les premiers en France sur la farine de sarrasin et farine de lentilles vertes à être certifiées sans gluten.
D'accord, et donc le début de l'activité agricole, c'était déjà avec des choix éthiques responsables, ou c'est un cheminement plus long, une prise de conscience au fil du temps et de l'évolution de ce qu'on sait sur l'alimentation?
Alors, moi, j'ai démarré en 88, derrière mon papa, qui était quelqu'un de très performant pour son époque. Donc, ça fait 33 ans que je suis installé. Et puis, en 98, j'ai eu un grave accident. J'ai eu fait 3 ans de fauteuil roulant, puisque je suis tombé d'une échelle. Et là, derrière, d'autres soucis de santé. Et j'ai pris conscience que ce que l'on mangeait était primordial. Donc là, j'ai décidé de mettre un grand virage dans ma vie et de partir sur l'agriculture biologique. Parce que je pense que c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est clair, tout le monde ne pourra pas manger bio, ou si c'est du bio qui vient de l'étranger, c'est différent, mais du bio français certifié avec le logo AB, je pense que là, on est sur une valeur sûre, pour la santé.
Oui, tout à fait, ça fait aussi partie des valeurs qu'on partage dans l'ICEM Pédagogie Freinet, hein, qui est un mouvement pédagogique qui travaille dans l'école, mais la formation du citoyen est à venir, ça fait partie de ce qu'on défend, et on a dans nos classes des recherches sur l'alimentation, des exposés, des choses comme ça, et on a aussi dans certains endroits la chance de travailler avec des mairies qui mettent comme vous l'accent sur la qualité de l'alimentation, l'éco-responsabilité, voilà. Et donc là, on a vu l'aspect, on va dire, production agricole, etc. Et la restauration, dans tout ça, c'est une découverte, une passion.
Alors mon activité, en fait, je suis devenu paysan parce que mon papa un jour m'a proposé de reprendre l'exploitation agricole et je pensais que ça allait pas être ma place. Donc je voulais être pâtissier, restaurateur. C'était ma passion quand j'étais jeune. Je faisais beaucoup de pâtisserie quand j'étais gamin. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi ne pas travailler la matière première qu'on produit? Et là, arriver à l'aboutissement de mon rêve d'enfant. Et mes enfants ont décidé de venir nous rejoindre. Donc là, la meunerie, c'était une belle étape. Par contre, faire les biscuits et démarrer le food truck de super qualité, vous avez pu y goûter hier avec des galettes de sarrasin au maroilles, à la végétarienne, plein d'autres produits. Et même les crêpes, puisqu'on fait des crêpes au blé et seigle avec un caramel au beurre salé que je produis moi-même. Franchement, le bonheur, c'est de voir les yeux qui brillent dans mes clients, quoi. Quand ils voient la qualité de mes galettes, il y avait des Bretons hier qui m'ont dit « on n'a pas à rougir de la Bretagne » parce que... Ben, je dis « mais c'est normal, je les alimente en farine ». C'était une pointe d'humour, mais nous, notre but, c'est d'apporter le meilleur au client final. On est dans le circuit court. Et en même temps, ça me permet de faire de la pédagogie, expliquer aux clients ce qu'ils mangent. Qu'ils fassent attention à ce qu'ils achètent dans les commerces. Parce que quand on les voit qu'ils achètent des farines qui viennent, c'est marqué d'origine d'Asie ou d'Union européenne. Donc Union européenne, on sait que ça ne vient pas que de l'Europe, c'est, il y a des intermédiaires, mais ça peut venir d'Asie, ça peut venir de d'autres pays où on sait que la réglementation n'est pas la même. Donc la traçabilité, elle est hyper importante dans notre alimentation. Et le food truck, là, c'est un aboutissement parce que je communique avec mes clients finaux. Ceux qui ont leur assiette remplie de mon produit en direct. J'ai produit la graine, j'ai fait la farine, je fais la galette. Et eux, ils n'ont plus qu'à manger.
Moi, je dirais que c'est même plus que manger, c'est déguster. Pour avoir testé hier, et puis avoir vu aussi les autres personnes dans la petite queue qui attendaient, qui ne mangeaient pas les mêmes choses que moi, c'était vraiment super agréable. Les explications qu'on avait, c'était très bien. Donc vraiment, c'est... Pour les congressistes, c'est certainement un plus. Du coup, il y avait du succès, hein, puisqu'il y avait quand même le matin. C'était, vous avez dû souffrir au niveau travail. Hein.
Oui, oui. Là, en fait, je perds un litre d'eau en une heure et demie parce que c'est très intense. Hein. Il fait chaud avec les biliques. On tournait à 4 crêpières quand même. Hein. Peut-être 5 aujourd'hui parce qu'on veut pas vous faire attendre comme hier. Faire 80 repas en une heure, c'est pas possible. Donc c'est tout. On a vu que la file, elle s'allongeait, mais les gens étaient patients parce qu'ils entendaient parler du produit qui leur plaisait. Et ils ont dit, tant pis, on préfère passer un peu plus de temps dans la queue à attendre notre tour, mais au moins manger quelque chose d'excellent, quoi. Et ça, c'est un bonheur. En plus, ça permet de discuter, c'est surtout ça. Il y a du dialogue en même temps. Il n'y a pas une attente bête, une file d'attente. Voilà, et je pense que ça, c'est important. Parler de notre produit.
Tout à fait. Du coup, les biscuits, par exemple, vous les vendez dans des points de vente à vous les distribuez? Alors, parce que c'est un peu l'interrogation avec toute cette activité.
Alors, la marque L'Atelier Comtal, c'est une nouvelle marque. Hein. On a créé notre entreprise la veille du Covid, de la Covid. C'est-à-dire, on a démarré le 20 décembre 2019. Et malheureusement, nous, l'État ne nous a pas aidés parce qu'on n'avait pas de bilan. Alors, il faut travailler 4 fois plus que les autres parce que c'est ça ou c'est la mort de l'entreprise. Donc, mon activité aujourd'hui, elle est multipliée par 2. Nos biscuits, on les retrouve sur Internet. Hein, on a un site Internet, www.atelier-6contal.fr. Et puis, là, on peut expédier dans la France entière. Sinon, on est aussi dans les magasins bio et les épiceries fines.
Pour les gens comme moi qui viens des Alpes-Maritimes, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on peut récupérer comme ça des produits de qualité en dehors de département où on est là.
Oui, ça, il n'y a aucun problème. On expédie même en Belgique, en France, c'est toute la France, il n'y a aucun souci. On est ouvert et puis là, on va faire bientôt un gros salon pour les magasins bio à Paris et ça va nous permettre de se faire connaître parce que jusque-là, j'ai jamais pu en faire avec les problèmes sanitaires qu'on a en France. Là, ça va être vraiment important pour notre développement. Et on continue en plus à chercher des nouveaux produits. Nous, on travaille qu'avec des matières premières les plus nobles qui existent en France. On se force d'avoir... C'est pas qu'on se force. C'est qu'on veut que notre produit soit le maximum avec le local. Donc déjà, de produire ces farines, ça nous permet d'avoir une traçabilité exceptionnelle. Tout ce qui est beurre, crème fraîche, fromage, on travaille qu'avec du français. Du français avec les meilleurs français bio. Voilà, ça c'est important. Et quand vous avez goûté les biscuits hier, que ce soit le cookies ou les biscuits apéritifs à la mimolette, il n'y a rien à dire, c'est magnifique.
Voilà. Je confirme, c'est vraiment très, très, très excellent, c'est succulent. Et du coup, peut-être la dernière question, puisqu'on est dans un congrès pédagogique, vous parlez super bien de votre passion, de votre métier. L'envie du partage, est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer des écoliers, des lycéens, des collégiens? Ou si ça ne s'est pas fait, ça pourrait se faire?
Ah, ça se fait. J'ai régulièrement des groupes d'écoles qui viennent visiter l'exploitation parce que ils estiment qu'on est hors du commun. Déjà, on est les premiers en France sur un domaine, les premiers à avoir développé. Maintenant, on est suivis. Hein. Mais après, c'est de la copie. Nous, on est original. Tout ce que l'on a créé, que ça soit des biscuits. L'originalité, c'est nos recettes que j'ai inventées avec mon épouse. On se revendique comme les créateurs de ce type de produits, de biscuits. Et donc, les jeunes groupes viennent, parce qu'en plus, on a créé une huilerie avec une huile de caméline qui est exceptionnelle, avec des valeurs nutritionnelles qui sont impressionnantes, parce que on est sur des limons profonds. Vous êtes formateur, vous êtes instituteur, et vous savez ce que c'est que de communiquer. C'est vrai que moi, j'adore communiquer de mon activité parce que je la vis à pleinement. Je suis un passionné qui s'est auto-formé. J'ai un petit diplôme agricole. Par contre, tout ce qui est meunerie, biscuiterie, huilerie et commercialisation, je me suis formé tout seul. Voilà. Ça, c'est. Alors, je fais des erreurs. Et les erreurs, ça aide à grandir.
Oui, ça rejoint un peu ce que nous on défend en pédagogie freinée, qu'on appelle le tâtonnement expérimental. Donc, on fait son chemin petit à petit. Nos erreurs vont enrichir notre patrimoine de travail et on va en progresser grâce à l'erreur. Donc, ça rejoint effectivement des valeurs de notre mouvement. Donc, comme on est sur une radio qui émet localement, si des collègues voulaient vous contacter pour une visite de classe,
Il n'y a pas de problème, on est ouvert. Après, il faut planifier parce que l'emploi du temps est compliqué. Après, il faut bien expliquer que nous, on a des normes d'hygiène, donc on est assez strict là-dessus. Il y a des endroits où on ne peut pas aller. On visite derrière des vitres. Aucune fenêtre ne s'ouvre sur certains locaux, mais on peut voir le laboratoire puisqu'on est en salle blanche. C'est quand même un investissement de plus d'1 million d'euros, la biscuiterie. Pour une petite ferme de 140 hectares, plus ce qui a été fait avant, parce qu'on trie avec des caméras. On est en trieur optique couleur depuis maintenant plus de 5 ans. Je pense que dans mon département, je dois être le seul agriculteur à en avoir un couleur, même manche. Ouais, je ne sais pas si c'est toute la région, mais à cette époque-là, quand j'ai acheté ma machine, il fallait aller de l'avant. On savait ce qu'on allait faire. Et puis, l'avantage aussi que j'ai, c'est que j'ai des enfants derrière qui ont un cerveau bien rempli. Parce que dans le temps, on disait à un paysan, que si tu sais rien faire, tu seras paysan. Aujourd'hui, je peux vous dire, la matière grise, elle est encore plus importante que les bras. Et j'en ai un qui est un vrai technicien, puisqu'il est ingénieur au niveau machinisme et tout ça. Il a fait des mines de Douai. Et puis, donc lui, c'est la technique. Il est nettement supérieur à moi, pareil, il me donne des conseils. Et puis, j'ai le deuxième qui est plutôt un économiste et un relationnel avec la clientèle. Donc, à eux deux, je pense que ça va faire quelque chose de très, très, très bien. Et puis, j'ai une belle fille qui a la production, mon épouse à la gestion, et puis un salarié qui, pareil, est passionné aussi de son travail, qui, lui, s'occupe pour que nous, on ait les grains les plus beaux, les plus propres au niveau nettoyage. Voilà. On a chacun une mission. Et le midi, qu'est-ce qu'on fait? On mange ensemble et puis on refait le point. À tel poste, il faudrait peut-être améliorer ou là, c'est très bien. On fait de l'autosatisfaction aussi parce que c'est important. On communique. C'est de la communication, que ça soit dans l'entreprise ou avec les clients potentiels ou clients.
Eh bien, un grand merci pour l'interview, mais aussi pour tout le travail qui va être fait pendant le congrès. Et puis, moi, je donne rendez-vous à ceux et celles qui n'ont pas encore été goûter les produits du food truck sur place, d'y aller. Tant pis s'il y a un peu de queue. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Merci et bon travail et merci, bravo à toute l'équipe.
Merci à toi et puis bonne continuation, bon séminaire.
Nous avons rencontré deux rédactrices du journal La Bulle, le journal du congrès de l'ICEM. Et puis l'une d'entre elles a bien voulu nous raconter sa pratique du journal dans sa classe.
C'est un outil d'expression et de communication. En plus, le journal là, donc, il paraît quotidiennement, donc ça permet d'être au fait dans l'actualité, quoi.
L'actualité de notre congrès, ça laisse des traces de ce qui s'y passe et ça informe de ce qui va se passer aussi.
Le journal du congrès, il est imprimé ?
Alors, il est imprimé pour qu'il soit consulté sur place. En fait, il n'est pas imprimé pour chaque congressiste.
D'accord,
on a fait le choix qu'il soit en ligne essentiellement. Et donc, on le retrouve à deux endroits. On le retrouve dans Thierry Meng, il est affiché, et ici dans l'école élémentaire, dans le couloir en bas. Et puis, on a accès au journal en ligne.
D'accord. Donc, on est sur le journal mural, du coup.
Voilà, plus que sur le... Et il y a quelques exemplaires d'imprimés aussi qui sont à disposition.
D'accord.
Qui doivent être rendus, mais qui disparaissent.
Consultables sur place, d'accord.
Voilà. Il est là.
D'accord. Et donc, le titre, c'est La Bulle.
La Bulle. Voilà.
Le nom du journal, d'accord.
Voilà. Très bien. Donc, on a quelques rubriques qui sont identiques et quotidiennes. On a un éphéméride, une phrase de Freinet, une expression rémoise, enfin une expression de la région.
Ok, d'accord.
On a la chronique de Henri Landroit. On a aussi une proposition de relaxation, une proposition de geste écolo qu'on peut faire en classe.
Oui, des propositions pédagogiques,
voilà,
du coup, là, les deux.
C'est d'accord. Ça. Il y a...
Les ateliers post-it, enfin,
voilà,
que, les appels, les petites annonces.
Et donc, qu'est-ce que c'est l'atelier post-it ? Chacun vient mettre ce qu'il veut transmettre au journal
c'est pas pour nous, en fait. C'est chacun vient mettre ce dont il a besoin et ce qu'il peut proposer. Et puis après, s'organise des temps pour pouvoir discuter des sujets.
D'accord.
Puis alors, on a aussi donc, des comptes rendus d'ateliers. Il y a des personnes dans les ateliers, dans le congrès, qui viennent apporter leur compte-rendu.
Et puis, on en profite aussi pour prendre en photo toutes les expositions. Enfin, tout, non. Prendre en photo des œuvres, des expositions, voilà. Pour aussi laisser des traces de ça dans le journal. Et puis, on prend aussi un peu de vie quotidienne, les rassemblements... Voilà, des moments un peu importants et pas que les ateliers.
Il faudra enlever au montage tout ce qui est journal et l'école.
Toi, t'en as beaucoup fait ?
Ah oui, moi j'en ai beaucoup fait. On faisait vraiment très très souvent des journaux, alors c'est vrai que c'est propre, c'est différent suivant la pratique de chacun. Personnellement, nous on faisait des journaux très très souvent pour que justement que ce soit pour pouvoir communiquer rapidement aux lecteurs, aux familles, et que les enfants s'y retrouvent tout de suite parce qu'après c'est vite oublié, la vie de la classe, quoi. Les ouvertures, nos découvertes, les textes libres, les reportages, les enquêtes. Il y avait beaucoup de choses qui passaient par le journal.
Cette émission est à présent terminée. Rendez-vous à 16h pour l'émission en presque direct du congrès ICM Pédagogie Freinet. Et cela sera notre dernier rendez-vous.
Nature proves that the weak must die, so that the strong may live. Authority, cleverness, imagination. Those are the real differences between men. I walk amongst these convicts, these thieves and murderers, alone. But they respect me. Tabs on the man. And that way I can control him.